Nanon, chapitre 23.
Ce n'est pas vous que je voudrais tuer, lui dis-je. Je vous aime et vous estime trop pour ça. Mais je voudrais tuer le mensonge auquel vous vous êtes laissé prendre.
Et ce mensonge, c'est la patrie, la liberté, la justice?
Non, c'est votre fameuse idée que la fin justifie le moyen.
Il alla se rasseoir au bout de la salle et ne s'avoua point vaincu. Il resta pensif, puis, revenant à moi,
« Est-ce que tu aimes passionnément, Franqueville ?»«
Je ne sais pas bien ce que veut dire le mot passionnément. Je l'aime plus que moi-même, voilà tout ce que je sais. »«
Et tu ne pourrais pas en aimer un autre, moi, par exemple ?»
Je fus si étonnée que je ne répondis point.
« Ne sois pas surprise, reprit-il.
Je veux me marier, quitter la France, abandonner la politique. Je ne dois rien à Louise que l'aumône du château de ses pères. Elle partagera ce débris de fortune avec Émilien. Ils redeviendront seigneurs de ces paysans qui ne demandent qu'à redevenir serfs. Ne discutons plus. Je suis dégoûtée d'eux, du peuple des villes et de toutes choses. Je hais la noblesse. Tu devrais la haïr aussi, car Émilien ne pourra ni ne voudra t'épouser si la monarchie recommence. Je ne suis pas plus aristocrate que toi par ma naissance. La fortune que j'ai, je la dois au travail de mon père et au mien. Ne me crains pas. Je ne suis pas épris de toi, Nanette. Si j'écoutais mon penchant, je serais amoureux de Louise. Mais je sais qu'elle est une femmelette, et je vois en toi un esprit supérieur, un caractère admirable. Tu es assez belle pour que l'on te désire, et si tu m'encourageais, j'oublierais facilement tout ce qui n'est pas toi. Tiens, ne me réponds pas. Réfléchis, la nuit porte conseil. Tu seras plus utile à Émilien en devenant ma femme qu'en songeant à être la sienne. Tu sais que je t'aime beaucoup. À nous deux, nous lui referons une existence. Je te permettrai de le regarder comme ton frère. Je ne serai pas jaloux. On ne doit pas l'être de la droiture en personne. L'homme qui épousera Louise sera dévoré d'inquiétude. Celui à qui tu auras dit oui pourra compter sur toi comme sur Dieu. C'est te dire que tu seras apprécié comme tu le mérites. Tais-toi, attends à demain. Plus de discussions, plus de récriminations. Décide de ton sort et du mien. Il prit son flambeau et se retira vivement sans me regarder. Je restai abasourdie, mais non indécise. Quand même j'eusse pu avoir de l'inclination pour lui, je voyais de reste qu'il était follement amoureux de Louise et qu'il ne m'eût épousée que pour s'en guérir. En supposant qu'il n'y eût pas réussi, combien j'aurais été malheureuse! Monsieur Costejoux était un homme exalté, tout de premier mouvement, et capable de tomber d'un excès dans l'autre. Certainement, il méritait qu'on eût le dévouement de s'attacher à lui, mais on risquait fort d'y faire son propre malheur et le sien. Son idée ne m'enivra donc pas. Si je le sentais au-dessus de moi par son éducation et ses grands talents, je le sentais faible et indécis de caractère. Ses moments de violence ne m'eussent point effrayé, mais son agitation intérieure m'eût troublé moi-même, et je n'aimais pas le trouble, qui est une incertitude. Combien Franqueville, avec sa simplicité de cœur et sa droiture d'intention, me paraissait plus digne de mes soins et de mon attachement. Il n'y avait rien en lui qui ne fût clair pour moi, et chacune de ses paroles entrait dans mon âme comme une lumière d'en haut. Certes, il n'aurait jamais l'habileté de faire sa fortune, comme M. Costejoux. Il se contentait de si peu de choses en ce monde. C'était à moi d'y songer pour lui, tandis qu'il me dirigerait dans les choses plus élevées. Et puis, je l'aimais uniquement. Je l'avais aimé toute ma vie. Je n'aurais pu seulement essayer d'en aimer un autre, ne fût-ce que moitié moins. Le lendemain matin, M. Costejoux, qui se disposait à partir et à qui je servais son déjeuner,
Voyant que j'étais aussi calme qu'à l'ordinaire et que je ne cherchais point à être seule avec lui, comprit bien que je n'avais pas changé d'idée et parut se repentir de ce qu'il m'avait dit la veille. « J'étais très animée, me dit-il. Vous m'avez troublée avec vos idées où il y a du vrai, mais qui pêche par la base, car vous supposez que la situation où nous nous sommes trouvés avait été faite et choisie par nous, tandis que nous avons été forcés de la subir. Dans cette discussion, un petit secret que j'ai dans un recoin du cœur m'a échappé, et le sot dépit qu'il me cause, mince blessure à ajouter à toutes celles qui me déchirent l'âme, m'a porté, je ne sais comment, à vous dire des choses folles, dont vous vous moqueriez si vous n'étiez une personne généreuse et sage. Puis-je compter que vous les garderez pour vous seule, et qu'Émilien même, Émilien surtout, n'en sera pas instruit ? Comme je n'ai pas eu seulement l'idée de vous faire dire ces choses, et que vous les avez dites vous-même sans réflexion, ma conscience ne m'oblige pas à les lui rapporter. Comptez, d'ailleurs, qu'elles seront oubliées de moi aussi vite qu'elles ont été conçues par vous. Je vous en remercie, Nanette, et je compte sur votre parole. Un moment peut venir où j'aurai à demander à Franqueville la main de sa sœur. La confidence que vous lui auriez faite de mes irrésolutions pourrait le mal disposer. Il est plus sérieux que moi, parce qu'il est naïf. Il ne me comprendrait pas. C'est vrai que ces irrésolutions soient donc bien enterrées, monsieur Costejoux. Si vous aimez vraiment Louise, vous la corrigerez de ses petits travers que vous encouragez trop, c'est vous-même qui le dites. Faites-vous aimer. Une femme donne toujours raison et autorité à celui qu'elle aime. Maintenant, mon cher monsieur, réfléchissez à l'affaire qui était convenue entre nous. Si elle ne vous satisfait pas entièrement...
Elle me satisfait, elle est conclue, je ne la regrette pas.
Croyez bien, Nanette, que je suis plus que jamais votre amie et très fière de l'être. Il me serra cordialement la main, et, le prieur étant venu se mettre à table, il causa librement et avec une sorte de résignation moqueuse des choses qui se passaient à Paris et qui nous parurent bien étonnantes à nous autres. Il nous apprit que, pendant que nous étions encore tout ébranlés et comme brisés par les émotions de la veille, les privations et les souffrances du présent avec les appréhensions du lendemain, le beau monde était en joie et semblait devenu fou. Il nous raconta les fêtes que donnaient Madame Tallien et Madame Beauharnais, les costumes grecs de ces dames, les bals des victimes où l'on saluait en faisant la pantomime de laisser tomber sa tête, où l'on dansait en robe blanche et ceinture de deuil, où l'on se coiffait en cheveux courts, dit toilette de guillotine, où l'on était admis que lorsque l'on avait eu au moins un guillotiné dans sa famille. Cela me parut si atroce et si lugubre que j'eus peur et que j'en rêvai la nuit suivante. J'aurais compris des réunions de royalistes où l'on eût fait quelques simulacres funèbres avec des larmes en commun ou des serments de vengeance. Mais danser sur la tombe des parents et des amis, c'était du délire, et Paris en fête m'épouvantait l'esprit encore plus que Paris se ruant autour de l'échafaud. Pendant qu'on faisait ces réjouissances cyniques dans le beau monde, nos pauvres et sublimes armées prenaient la Hollande. Au premier jour de février 95, je reçus une lettre d'Émilien. Nous sommes entrés aujourd'hui 20 janvier à Amsterdam, sans souliers, sans vêtements et couvrant notre nudité avec des tresses en paille, mais en bon ordre et musique en tête. On ne nous attendait pas si tôt, rien n'était prêt pour nous recevoir. Nous avons attendu 6 heures dans la neige, qu'on pût nous donner du pain et nous caserner. Pas un murmure n'est sorti de la poitrine de nos héroïques soldats, et les vaincus les contemplaient avec admiration. Ah, mon ami, qu'on est fier de conduire de tels hommes et d'appartenir à cette armée où l'âme de la France, égarée et meurtrie, ces réfugiés, purs et sublimes, libres de toute pensée personnelle, enivrés de l'amour de la République et de la patrie. que je suis heureux de t'aimer et de me sentir digne de toi après des souffrances inouïes acceptées joyeusement. Ne plains pas ton amie. Sois heureuse aussi et compte que, aussitôt la paix faite, il ira chercher dans tes bras sa récompense. Dis à mon père Dumont que je le chéris et à Mariotte que je l'embrasse. Dis à notre cher prieur que j'ai pensé à ses paroles à tous les moments de mon épreuve. En souffrant le froid, la fatigue, la faim, je me disais « On a fait le mal, et le mal a fait tous les maux. Il faut pourtant forcer le bien à renaître. Pour cela, il faut souffrir, et le soldat est la victime expiatoire qui réconciliera le ciel avec la France. » Il y avait en post-scriptum « J'allais oublier de vous dire que j'ai été nommé capitaine à l'affaire de Duérène sur le champ de bataille. » Rassemblés tous les quatre, le prieur, Dumont, Mariotte et moi, autour de cette chère lettre, nous pleurions de plaisir et de douleur. Il ne disait pas quand il reviendrait. Nous ne savions pas s'il ne serait pas bientôt aux prises avec de nouvelles souffrances et de nouveaux dangers. Mais il nous voulait contents et fiers de son martyre. Nous nous efforcions d'oublier le chagrin, pour ne sentir que la joie. Aux approches du printemps, le prieur, qui avait, grâce à nos soins, assez bien supporté ce rude hiver, se trouva tout à coup plus malade. Je ne le quittais presque plus, ce qui gênait bien ma surveillance et mes occupations, mais j'étais décidée à tout perdre plutôt que de l'abandonner à lui-même. Sa maladie était de celle où le courage fait défaut. Il ne se sentait point souffrant, il mangeait bien, et il aurait eu de la force s'il eût pu respirer. Cet étouffement lui causait une sorte de colère, suivie de profonds découragements. Moi seul pouvais alors le consoler. Un jour qu'il se sentait mieux, il m'engagea à prendre l'air, et j'en profitai pour aller voir un autre malade, une pauvre femme, à laquelle je m'intéressais aussi et qui demeurait assez loin. J'allais et revins vite. Mais les jours étaient encore courts. Parti à midi, je me trouvai en un bois à la nuit. Et comme les loups ne manquaient point, ce fut plaisir pour moi d'entendre parler et marcher à peu de distance sur un chemin qui traversait le bois par le milieu, tandis que je me dirigeais en biaisant vers la lisière. L'idée me vint de prendre le plus long et de suivre ces gens qui me rassuraient contre les mauvaises bêtes. Pourtant, ils n'étaient pas de chez nous, car ils allaient dans un autre sens. Et comme j'étais une trop grande fille pour faire ronde avec des étrangers, je les suivis sans faire de bruit. J'étais assez près pour entendre leur voix, et il me sembla distinguer quelques paroles. Entre autres, « Le prieur, Moutier de Valcreux, minuit. » Ceci me donna de l'inquiétude. Je doublai le pas légèrement sans me faire entendre et me trouvai bientôt à portée de ne rien perdre. Il s'était arrêté. Et autant que je pus compter les voix, car la nuit ne me permettait pas de voir à travers les branches, il n'était que trois. Je compris qu'ils en attendaient d'autres qui arrivèrent un moment après, et puis d'autres encore. Et ils se comptèrent mystérieusement, à demi-voix, en se donnant des noms dont aucun ne m'était connu et qui me firent l'effet d'une convention entre eux. Trompe-la-Mort, Gargousse, Franc-Limier, etc. Ils parlaient aussi en mots convenus, comme une espèce d'argot. Je compris pourtant, ou plutôt je devinais. C'était une bande de ces malfaiteurs inconnus qui, sous prétexte de royalisme, surprenaient les châteaux ou les fermes durant la nuit et torturaient les gens qui s'y trouvaient pour avoir leur argent. On en parlait dans le pays et on en avait grand peur. On racontait d'eux des cruautés effroyables et des vols audacieux. On nous avait tant annoncé, d'année en année, des brigands qui n'avaient jamais paru chez nous que je n'y croyais plus. Force me fut de voir le danger et de l'apprécier. Ils étaient sept, et ne se jugeaient point en nombre suffisant pour attaquer l'abbaye de Beaulieu, qui était devenue une ferme habitée et bien gardée. « À Valcreux, disait-il, il n'y avait que le vieux prieur, deux vieux ouvriers et deux femmes. » Ils étaient bien renseignés, seulement ils ne comptaient pas du mont, ce qui me prouva qu'il n'y en avait aucun de notre commune. Cela me fit plaisir. S'emparer du moutier n'était donc pas difficile. Mais y avait-il là quelque chose à prendre qui en valût la peine? On ne connaissait aucune économie au prieur, et la République s'était emparée de tout l'argent des moines. Il n'y avait qu'un plaisir à espérer, celui de dévaster la propriété du jacobin Costejoux. Un de ces hommes insista sur l'argent que devait avoir le prieur. Il dit que ces gens-là étaient plus malins que la République et qu'ils avaient constamment trouvé le moyen de lui soustraire quelque chose. Il paraît qu'il ne faisait pas plus de cas des gens d'église que des jacobins. Le dernier avis parut l'emporter et on parla de la manière de s'introduire. Deux de ces hommes devaient se présenter dans la soirée comme mendiants et demander à coucher dans la grange. À minuit, ils ouvriraient la porte aux deux autres. Ils ne paraissaient pas ignorer que les brèches avaient été réparées et qu'il n'était pas facile d'entrer par-dessus les murs. En attendant, ces bandits parlèrent de souper chez le garde de la forêt, qui était un homme à eux, une manière de complice et de receleur. Je jugeai que je n'avais pas de temps à perdre pour contrarier ces beaux projets. Je m'apprêtais à quitter ma cachette pour m'éloigner, lorsque je heurtai une souche dans l'obscurité et fis quelques bruits en tombant. Tous firent silence et j'entendis armer des fusils. Je restai à terre, immobile. On chercha autour de moi. Je pensai que c'était ma dernière heure, car ils ne faisaient point de grâce à ceux qui découvraient leurs secrets. Ils ne me trouvèrent pas et s'imaginèrent n'avoir entendu que le bruit d'une manche morte tombant d'un arbre. Je profitai, pour m'échapper, du bruit qu'ils firent eux-mêmes en retournant à leur carrefour. Mais, forcé de percer dans le taillis, car toutes les routes que j'aurais pu prendre aboutissaient à ce carrefour d'où ils auraient pu me voir, je ne pus savoir où j'étais, et je m'égarai pendant une bonne demi-heure, tremblant de revenir sur mes pas et de me retrouver auprès d'eux. Enfin, après m'être heurté à bien des arbres et déchiré à toutes les épines, je me retrouvai à la lisière du bois et je m'enfuis à travers la lande jusqu'à ce que j'eusse rejoint le chemin de Valcreux. J'y arrivai baigné de sueur malgré le froid qu'il faisait et si essoufflé que j'avais peine à m'expliquer. J'allai au plus pressé, qui était de courir chez notre ancien maire, lequel était réélu depuis 2 jours, et de lui raconter l'aventure. Il savait que je n'étais ni peureuse ni visionnaire, et sur le champ, il manda le garde-champêtre pour rassembler le monde et avertir du danger qui menaçait le moutier. Nous n'avions plus guère d'hommes valides, tous les jeunes étaient à l'armée, mais les vieux ne manquaient pas de courage. Et quand on sut que les brigands n'étaient pas plus de 7, on résolut de tâcher de les prendre, car on soupçonnait plus d'une personne mal famée des environs de faire partie de la bande, et on leur en voulait plus que s'ils eussent été des étrangers. On s'arma comme on put. On avait encore quelques vieux fusils cachés qui avaient échappé aux réquisitions. Et puis on avait les fameuses piques et hallebardes prises au Moutier en 89, et qui faisaient le fond de l'armement de la garde nationale de la commune. On m'engagea à bien recevoir les faux mendiants et à leur laisser ouvrir la porte à minuit. On convint que 20 des nôtres se tiendraient cachés dans le pli de terrain autour de la fontaine au miracle. 12 autres seraient cachés d'avance dans la chapelle du Moutier, de manière à prendre les bandits par devant et par derrière. Je courus donc avertir le prieur, et je l'engageai à se tenir bien tranquille dans sa chambre, que je chargeai dûment de garder avec la Mariotte. Celle-ci mit en riant une broche derrière la porte, bien résolue à s'en armer au besoin. Les 2 ouvriers veillèrent dans la cuisine, et je m'en retournai à la grande porte pour recevoir les faux mendiants, qui ne tardèrent pas à se présenter, et que je fis entrer sans leur témoigner de défiance. Je leur demandai s'ils avaient faim. Ils répondirent que non, qu'ils avaient beaucoup marché et ne souhaitaient qu'un coin pour dormir. Je les conduisis à l'endroit que je leur destinais, et ils se jetèrent sur un tas de fougères comme des gens harassés. J'eus à veiller à ce que nos amis du village fussent assez prudents pour s'introduire sans bruit un à un dans la chapelle. Mais j'eus beau faire et beau dire, ils ne purent se tenir d'y causer à voix basse, et bientôt je vis que les deux bandits ne dormaient pas, qu'ils se méfiaient et se glissaient dans la cour pour observer. Il était déjà 11 heures du soir quand tous les préparatifs de nos défenseurs furent terminés. Et nous fûmes surpris d'entendre les chouettes du donjon crier plus fort que de coutume. Je fis grande attention, et tout à coup je dis à nos gens « Ce ne sont pas de vrais cris d'oiseaux. Les chouettes elles-mêmes s'en aperçoivent, elles ne disent plus rien. Ce sont nos deux bandits qui ont grimpé aux fêtes du grenier et qui avertissent leurs camarades de ne pas approcher parce que le moutier est en état de défense. » Je serais bien étonné si dans un moment ils n'essayaient pas de sortir du moutier pour les rejoindre. « En ce cas, me répondit-on, il faut les guetter, leur tomber dessus et les arrêter. » Ce fut fait sans grand effort, car ces gens se rendirent sans résistance, leur rôle étant de ne pas comprendre de quoi on pouvait les accuser. On les mit dans le cachot du moutier, d'où ils ne pouvaient se faire entendre, et ils n'essayèrent plus d'avertir, ce qui les eut trop compromis. Tout cela prit environ une heure, et minuit sonnait quand chacun se retrouva à son poste. Nous ouvrîmes la porte à moitié, et pendant 10 bonnes minutes, on réussit à ne pas faire un mouvement, à ne pas échanger une parole. Je me tenais dans la tourelle de l'ancien frère portier, à même de jeter des pierres sur les assaillants, car je m'attendais à un essai de combat, et je ne voulais pas avoir exposé mes amis sans payer aussi de ma personne. Tout à coup, je sentis une odeur de brûlé, et, regardant par la meurtrière qui donnait sur la cour, je vis la fumée sortir de la grange. Les deux bandits, soit par mégarde, soit à dessein, y avaient mis le feu en sortant. Je n'eus que le temps d'avertir les hommes postés dans la chapelle. On éteignit vite ce commencement d'incendie, et ceux qui attendaient près de la fontaine se rapprochèrent afin d'entourer l'entrée du moutier, n'espérant plus s'emparer de la bande par surprise. Tout cela fut cause qu'elle ne vint pas, mais on vit approcher deux éclaireurs à cheval, et comme on leur courait sus, ils prirent la fuite au triple galop et disparurent dans la nuit. Ils étaient bien montés, et nous ne l'étions pas du tout. Il fallut renoncer à les prendre et à les connaître. On monta la garde durant plusieurs nuits, ce qui fut inutile. Ils se tinrent pour avertis et ne reparurent ni chez nous ni aux environs. On conduisit les deux prisonniers à Chambon, où ils furent interrogés. L'un des deux nia tout et jura que s'il avait mis le feu dans notre grange en fumant sa pipe, il n'en savait absolument rien et ne pouvait ni s'en justifier ni s'en accuser. L'autre fit le rôle d'imbécile et ne répondit à aucune question. On avait trouvé sur eux des couteaux qui ressemblaient à de grands poignards. Il n'y eut pas d'autre révélation de leur mauvais dessein. On les garda assez longtemps en prison, afin de s'enquérir de ce qu'ils étaient. On ne put le découvrir et on les condamna, comme vagabonds, à faire plusieurs mois de détention à Limoges.